L'art du blason est très présent autour de nous. Poussiéreuse, vieillotte, obscure ou prétentieuse, les armoiries souffrent parfois encore d'un certain nombre de préjugés qui parfois nous détournent de leur étude.
Pour en apprendre un peu plus sur la réalisation des armoiries, ce qu'elles représentaient et comment elles évoluent encore aujourd'hui, une conférence a lieu demain à 20h au Musée Jurassien d'Art et d'Histoire à Delémont avec Nicolas Vernot, historien spécialisé en armoiries, emblèmes, signes et symboles.
Nous passons donc un moment en compagnie de Nicolas Vernot qui a passé une bonne partie de sa vie à faire un travail de recherche autour des armoiries. Ces recherches sont assez fascinantes. Alors qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à ce domaine particulier ?
Oui, alors c'est vrai qu'on n'est pas très nombreux à s'intéresser à ce domaine-là. Je dirais surtout à s'y intéresser de manière scientifique. Mais pour répondre à la première partie de votre question, moi c'est depuis tout gamin que je m'intéresse à ces questions-là. Et donc mon approche, elle concilie à la fois l'émerveillement de l'enfant devant ces symboles mystérieux et puis la rigueur du scientifique qui essaye d'apporter des réponses étayées, sérieuses à des questions, mais toujours en gardant ce petit côté émerveillé, parce que tous ces blasons, ces symboles, ils nous parlent, hein, c'est un petit peu comme des émetteurs qui nous envoient des messages du passé, et moi j'essaye un petit peu de rétablir la connexion avec ces messages du passé.
Alors, la réalisation de blasons, c'était quelque chose d'assez important. Nicolas Vernot, il y a aussi tout le travail artisanal et artistique autour de ces créations.
Alors, complètement. On a coutume de dire que l'héraldique, la science des armoiries, c'est à la fois, justement, un art et une science. Et c'est d'abord, avant tout, un art parce que c'est de la communication visuelle. Les armoiries sont conçues pour être vues, elles sont conçues pour être arborées, et donc quand on les compose, la famille qui est à l'origine, qui se choisit des armoiries, va choisir soigneusement les éléments, et après, en fonction de ses moyens, elle va les confier à des artisans qui vont réaliser, par exemple, des chevalières pour pouvoir ensuite mettre le cachet sur le courrier, ou bien au sculpteur pour mettre au-dessus de sa porte, au peintre pour faire un cadre pour mettre à l'intérieur de son foyer. Donc, il y a toute une chaîne qui va, au départ, on est sur de l'imaginaire, et puis après, on mobilise des artisans pour que ces blasons soient affichés. Parce qu'un blason vivant, c'est un blason qui est affiché, que l'on voit, et qui, justement, transmet ce message.
Que l'on voit encore maintenant, parce que, par exemple, si on prend l'exemple d'une ville comme Delémont, où il y a notamment sur certaines fontaines le blason du prince-évêque, hein, Blacher de Wartensee, le blason est encore présent, il est très visible. C'est un signe d'une famille qui traverse les siècles.
Absolument. On peut vraiment dire que autrefois et encore aujourd'hui, les armoiries quadrillaient le paysage, c'est-à-dire qu'il y en avait partout. D'ailleurs, surtout en Suisse, où vraiment la Suisse, c'est le pays d'Europe où les armoiries ont été le plus diffusées dans la société. Elles étaient présentes dans les autres pays également, mais vraiment la Suisse, et l'ancien évêché de Bâle n'échappe pas à cette règle, c'est vraiment un pays où les armoiries sont appréciées et où l'efficacité en termes de communication des armoiries a toujours été poussée au plus loin. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez dans l'espace public des fontaines, on peignait les armoiries dans les châteaux pour affirmer le pouvoir des seigneurs, des princes-évêques en l'occurrence. Dans les églises, on voit un petit peu qui est qui en regardant où sont les armoiries, quelles sont celles qui sont placées en hauteur, quelles sont celles qui sont placées en bas, celles qui sont finement sculptées, celles qui sont plus maladroites. Tout ça nous donne plein d'informations sur une société qui se met en spectacle en réalité à travers toutes ces armoiries.
Et est-ce qu'il y avait un côté plus conservateur chez les Suisses, plus qu'ailleurs en Europe ?
Alors c'est vrai que c'est une question que je me pose souvent, mais pourquoi en Suisse plus qu'ailleurs ? C'est assez difficile de répondre à cette question d'un point de vue, je dirais, scientifique et étayé. Je pense qu'il y a quand même une spécificité suisse qui explique un petit peu ça, c'est le rôle des bourgeoisies. Ça c'est vraiment une particularité, enfin, le fait que les bourgeoisies soient toujours extrêmement vivantes et qu'elles soient un conservatoire de mémoire familiale individuelle au sein de collectivités. Donc ça crée un goût pour les armoiries dans les bourgeoisies, et puis les familles qui ne sont pas bourgeoises, mais qui ont le droit d'avoir des armoiries aussi, du coup, elles aussi souhaitent se mettre en avant. Je pense qu'il y a aussi un attachement au foyer, aux racines. Ça, c'est quelque chose qui est très présent en Suisse. Alors, moi, je suis français, donc je suis toujours impressionné par cet attachement à l'échelon cantonal. Les armoiries des cantons sont vraiment visibles partout. À l'échelon inférieur, les armoiries des communes, on peut considérer que la famille comme cellule de base rentre en fait dans cette vision générale d'une société, d'une identité qui se décline par les armoiries sous différents échelons en réalité.
Alors, ce qu'on voyait sur les armoiries, ça représentait le nom de famille, si le nom voulait dire quelque chose, alors ça pourrait représenter un métier, une fonction. C'est comme ça que naissaient les armoiries ?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que les armoiries, elles ont aussi une fonction d'efficacité. Il faut qu'on les mémorise. Et quand on voit un écu, il faut qu'on fasse l'association avec la famille le plus facilement possible. Donc, vous avez par exemple beaucoup d'armoiries qu'on appelle des armoiries parlantes, c'est-à-dire les armoiries qui établissent un lien phonétique entre la figure de l'écu et le nom. Alors, l'exemple le plus connu dans l'ancien évêché de Bâle, c'est Port-en-Truy. Port-truy, vous avez un sanglier. Alors, on n'a pas mis un port, on n'a pas mis une truie. On a mis le sanglier parce que le sanglier, c'est l'animal plus noble, c'est l'animal que l'on chasse. Mais l'origine, elle est bien phonétique. Et vous avez comme ça énormément d'armoiries, de lieux, de familles, où on prend un élément qui sonne bien dans le nom. Ou alors parfois, effectivement, c'est tout simplement le nom de métier. Une famille qui va s'appeler Chapuis. Chapuis, ça veut dire le charpentier en ancien français. Donc on va mettre une hache de charpentier ou bien un élément de charpente utilisé. Et comme vous l'avez également indiqué, souvent aussi, on va évoquer le métier. Par exemple, une famille de vignerons ou de laboureurs, le vigneron va mettre une serpette, une grappe de raisin, le laboureur va mettre un soc de charrue. Et puis ce qui est intéressant, c'est que si ben, au bout de 2 ou 3 générations, le petit-fils de laboureur va devenir notaire, il aura tendance à abandonner le soc de charrue puis mettre à la place un lion ou quelque chose qui... d'un petit peu plus noble, entre guillemets, même si les armoiries sont pas un signe de noblesse. Mais voilà, si la famille évolue, elle adapte ses armoiries en fonction de son statut social.
Voilà, ce qui fait qu'une armoirie n'est pas figée, elle évolue avec la famille. C'est un des aspects importants, parce que dans l'ancien évêché de Bâle, on retrouve des armoiries et des signes depuis le 15e siècle, hein, donc 5 siècles, et on peut imaginer qu'une famille a pu avoir plusieurs armoiries.
Alors absolument, c'est ça qui est fascinant dans le travail que je conduis dans l'ancien évêché de Bâle, c'est de voir que d'une famille à l'autre, et à l'intérieur d'une même famille, les armoiries évoluent, elles ne sont pas stables, elles sont très souples en réalité. Alors elles ont tendu à se stabiliser un peu récemment, parce qu'il y a l'idée qu'on voudrait retrouver les vraies armoiries de la famille. Mais en réalité, quand on creuse un petit peu, quand on regarde... génération après génération, ce qui se passe, on se rend compte que, eh bien, selon l'évolution du statut social, selon les goûts des personnes, selon aussi parfois l'habileté de l'artisan qui va ou pas commettre une erreur ou bien faire un petit ajout, eh bien, ces armoiries, elles évoluent sans cesse. Et c'est vraiment, on voit bien ici que les armoiries, elles ont un rôle, elles s'adaptent en permanence à l'air du temps, aux préoccupations des familles, et puis, il faut que l'œil soit content. Donc si la mode évolue, eh bien on adapte un petit peu les armoiries en fonction des modes.
Jusqu'à 9h, format A3.
Et nous sommes ce matin en compagnie de Nicolas Verneau, historien spécialisé en armoiries, emblèmes, signes et symboles, qui donne une conférence demain soir à 20h au Musée Jurassien d'Art et d'Histoire.
Alors on peut imaginer, Nicolas Verneau, que c'était assez coûteux de faire des armoiries. Est-ce que finalement c'était quand même parfois un peu réservé à des familles plus nobles ?
Non, alors pas tant que ça, parce que, alors effectivement, si vous êtes riche, vous avez les moyens de vous faire faire des vitraux, des pierres tombales, un château, etc. Mais quand on regarde un petit peu, quand on va dans les villages en Suisse, on voit que des fermes un peu cossues, il y a les armoiries au-dessus du linteau de porte ou au-dessus de l'arc de grange. Et en fait, quand on fait des travaux dans sa maison, on en profite pour rajouter une petite part du budget pour mettre un écusson au-dessus de la porte, par exemple. Ça coûte pas très cher. Donc en fait, on voit bien que les familles, selon leurs moyens, peuvent faire figurer leurs armoiries de différentes manières. Et contrairement à ce qu'on croit souvent, il n'y a pas d'enregistrement, ça ne coûte rien. Les armoiries existent officiellement à partir du moment où elles sont adoptées et utilisées. Et donc, dès qu'une famille a un petit peu de moyens, alors effectivement, si vous êtes très pauvre, vous n'allez pas adopter d'armoirie parce que vous n'aurez pas les moyens de payer un artisan, mais à partir du moment où vous avez un petit peu de biens, et puis que vous avez un certain rôle, alors pas forcément d'être une famille bourgeoise, mais vous avez un certain rôle dans la collectivité, dans la communauté locale, eh bien vous franchissez le pas et vous mettez des armoiries à l'église ou bien sur votre foyer, votre linteau de porte, etc., etc. Alors il y a une particularité aussi en Suisse, c'est que les familles utilisent beaucoup des cachets. Lorsqu'on consulte les archives anciennes et notamment les testaments, les témoins qui sont présents lorsque la personne rédige son testament ont des cachets, et souvent ces cachets ont des armoiries, ou alors, si c'est pas des armoiries en bonne et due forme, des symboles, des marques de maison, comme on dit. Et ce sont souvent, après une ou deux générations plus tard, ces marques de maison, une croix, des initiales, des outils, par exemple, qui vont inspirer les armoiries lorsque, un peu plus tard, on voudra franchir le pas et passer du simple emblème à quelque chose d'un petit peu plus organisé, en quelque sorte.
Nicolas Vernot, donc les armoiries représentaient les familles. Il y avait donc une certaine fierté. Est-ce qu'il y avait aussi, dans certains cas, une manière de s'imposer ?
Oui, alors ça peut être le cas. Effectivement, selon les familles, on voit bien, par exemple, que les familles nobles ou les familles anoblies vont avoir tendance à avoir des armoiries beaucoup plus chargées. Si elles le peuvent, elles cherchent à se faire confirmer leurs armoiries par les autorités civiles, donc par le prince ou l'empereur en l'occurrence, puisque l'ancien évêché de Bâle faisait partie du Saint-Empire romain germanique. Elles vont avoir tendance à les placer le plus en évidence possible sur leur château, sur leur à l'église en hauteur, donc pour bien montrer qu'elles tiennent le haut du pavé en quelque sorte. Et donc c'est parfois le contenu des armoiries qui nous donne un indice, ou c'est dans un lieu, l'endroit où elles sont situées. Plus c'est haut, plus c'est gros, plus ça a coûté cher, et plus la famille est importante et se donne à voir comme étant importante.
Aujourd'hui, nous sommes dans l'ère de l'image électronique. On a l'impression que nous n'avons plus des armoiries comme ça se faisait auparavant. Mais par exemple, l'image que l'on peut voir, par exemple, sur une page d'accueil Facebook qui représente quelqu'un, est-ce qu'il y a là quelque chose qui peut être proche de ce que l'on imaginait il y a 5 siècles lorsque l'on réalisait une armoirie pour représenter une famille ?
Oui, alors effectivement, on a aujourd'hui des moyens. Alors, bon, pour les communes, il y a parfois les logos. Pour les personnes, vous avez le selfie, la page Facebook, le site internet. Mais les armoiries, je dirais, et c'est un petit peu la grande surprise au 21e siècle, se portent bien et se portent de mieux en mieux parce que justement, tous ces symboles ou ces signaux dont je viens de vous parler, Facebook, les selfies, etc., c'est éphémère. Et on est dans une société qui s'accélère, et donc les gens recherchent à rééquilibrer cela avec de l'enraciné. Et les armoiries, si justement à nouveau reviennent dans l'espace public, eh bien, elles disent aussi, ben voilà, nous ne sommes pas que dans l'immédiat, nous ne sommes pas que dans l'instantané, nous avons des racines, et elles permettent justement de rééquilibrer les choses par rapport justement à ce tout numérique où chaque image remplace l'autre en réalité.
Nicolas Vernot, on l'a dit, hein, vous êtes historien spécialisé en armoiries, emblèmes, signes et symboles. Alors, c'est vrai que l'histoire, et on le dit, vous retrouvez des signes qui ont plusieurs siècles. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez encore des surprises ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous découvrez encore des choses, notamment lorsque vous venez travailler sur les archives de l'ancien évêché de Bâle ?
Alors, j'ai des surprises tous les jours parce que l'univers des symboles, l'univers des emblèmes est d'une extrême richesse et surtout, on n'en a jamais fait le tour. C'est-à-dire qu'il y a à la fois ce travail, donc moi j'ai la chance de travailler pour les archives cantonales jurassiennes et la société jurassienne d'émulation, donc ils m'ont demandé de tirer profit d'un fichier qui avait été constitué par un ancien archiviste, André Ress. Et ce fichier comporte des milliers de références d'armoiries jurassiennes. C'est d'une extrême richesse. Et donc, il y a tout un travail de mise en valeur. Et chaque fiche apporte à la fois des informations et soulève son lot de questions. D'où viennent ces armoiries ? Pourquoi telle famille a choisi 3 étoiles ? Et puis celle d'à côté, pourquoi est-ce qu'elle a choisi tel outil ? Et donc, en fait, on rebondit d'une réponse à une nouvelle question. C'est comme un jeu de pistes. Et trouver les réponses est toujours difficile. Parce que quand les familles adoptaient des armoiries, elles ne disaient pas les raisons pour lesquelles elles les choisissaient. Alors parfois, c'est transparent, quand par exemple les armoiries évoquent directement le nom de la famille, le métier. Et puis parfois, on en est réduit à faire des hypothèses. Il faut faire des recherches. Et vous allez chercher pendant des semaines sans trouver. Et puis soudain, en consultant un tout autre ouvrage, vous allez trouver le petit paragraphe qui va vous éclairer sur « Ah bah tiens, ça c'est un mot de patois ». Et donc c'est pour ça que telle famille a choisi telle figure, c'est parce qu'il faut pas chercher en français, mais il faut chercher en patois local. Et donc vous avez comme ça un jeu de pistes permanent qui vous emmène d'une énigme à une autre en fait.
Merci Nicolas Vernot. On rappelle que demain, mardi soir, vous allez donc donner une conférence au Musée Jurassien d'Art et d'Histoire, justement concernant ces questions d'armoiries, d'emblèmes, de signes et de symboles. Merci de nous avoir accordé un moment et très belle journée.
Merci beaucoup à vous, très bonne journée à vous, à tous vos auditeurs.